Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Quand le prêtre est en train de prêcher et qu'il y a un homme tourmenté par un esprit impur qui se met à crier « Ah !» Évidemment, le prêtre n'est pas Jésus. Il n'est même pas, non pas un des apôtres, même pas le successeur des apôtres. Ça veut dire que le prêtre, il n'a même pas, comme les évêques, le pouvoir d'exorcisme. C'est-à-dire, moi, en tant que prêtre, je n'ai pas le droit d'interpeller le démon, de faire un exorcisme d'un pouvoir que seul l'évêque a et qu'il délègue uniquement au prêtre exorciste. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Imaginez, ce n'est pas une incitation à faire un jeu de rôle. Imaginez en cet instant qu'il y a une personne qui se met à créer quelque chose d'épouvantable. Qu'est-ce qu'on fait? Ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais à Saint-Louis-d'Antin, je célébrais la messe le dimanche soir à 21h, et un soir, vous savez, on ne voit pas les choses arriver, tout d'un coup, il y avait un homme qui était debout dans l'aile centrale et qui criait « Ah !» Je ne sais pas ce qu'il criait, je ne veux pas le savoir, mais ce n'est pas très sympathique. Et personne n'a bougé. Mais j'avais un sacristain, un bon sacristain qui est venu, qui l'a pris solidement par le bras et qui l'a mis dehors. Je m'en souviens parce que 2 jours après, j'ai reçu une lettre d'engueulade de la part d'une des personnes qui était présente qui dit « Oh non, vous avez manqué de charité !» Mais ici, à la compassion, c'est plus compliqué parce que c'est moi le sacristain. Alors, okay, c'est pour ça que je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Vous savez, on s'indigne facilement, toujours après coup, de ces situations où on dit « Oh, personne n'est intervenu, personne n'a eu le courage d'intervenir ». Ce n'est pas nécessairement une question de courage, c'est plutôt parce qu'on ne sait pas. C'est autant l'ignorance, au moins, souvent autant l'ignorance que la peur. Quand Jésus est passé dans Jérusalem en portant sa croix. Tous ceux qui l'ont vu, quelques jours avant, il y en avait qui l'avaient acclamé, qui l'avaient ensuite conspué. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? S'enfuir comme les apôtres pour ne pas voir ça? L'apprentissage commence dès l'enfance. C'est un volet essentiel de l'éducation, c'est une responsabilité des parents, d'apprendre aux enfants ce qui est mal, ce qui n'est pas acceptable, aussi bien de leur part à eux qu'à leur égard. Il faut apprendre aux enfants ce qu'on peut dire et ce qu'on doit faire. Quelles sont les paroles autorisées et les gestes interdits, aussi bien des gestes trop familiers, trop affectueux que les gestes de brutalité. La seule façon de protéger efficacement les enfants, c'est de leur apprendre, sans nécessairement rentrer dans les détails, la réalité du mal, c'est-à-dire l'existence du diable. Alors, encore faut-il que les parents étaient eux-mêmes avertis. Vous savez, tant de parents qui ne baptisent pas leurs enfants, qui disent « Oh, ben, ils choisiront quand ils seront grands », qui ignore manifestement qu'une des premières fonctions du baptême, c'est d'arracher le nouveau-né à l'emprise de Satan. C'est une prière de délivrance, c'est un exorcisme du baptême. Et évidemment, si on croit que le diable n'existe pas, comment est-ce que les enfants apprennent? Comment est-ce que nous-mêmes nous avons appris quand on était enfant? Fondamentalement, en voyant faire les parents. La transmission est fondamentalement visuelle, bien plus qu'orale, et surtout bien plus qu'écrite. On voit faire. C'est pour ça qu'on insiste tant sur le temps passé justement par les parents avec les enfants. C'est pour ça que le pape, chaque fois qu'il retrouve des pères, dit au papa, allez jouer avec les enfants, passez du temps avec eux. Une transmission visuelle, en voyant, bien sûr en écoutant, mais bien plus qu'écrite. C'est l'illusion de tout ce qu'on peut codifier et mettre par écrit. C'est la tentation qui revient sans cesse. Chaque fois qu'il y a un événement nouveau, on se dit, ben, on va légiférer. On va légiférer, on va codifier ça. C'est un grand avantage, ça nous évitera de réfléchir. D'autres vont répondre pour nous. Le problème, c'est qu'il existe une loi intérieure gravée dans notre cœur. On l'appelle la loi morale, la loi naturelle, c'est une partie de la loi divine qui est gravée dans notre cœur. C'est pour cela que nous venons d'ailleurs, pour pouvoir retrouver cette loi intérieure. qui fait que de toute façon, fondamentalement, au fond de nous-mêmes, nous savons ce qui est bien. Il y a un débat sans cesse récurrent sur la différence entre ce qui est légal et ce qui est moral. Ça revient régulièrement dans l'actualité, on dit « Ah, c'était pas illégal. Oui, mais c'était pas très moral. » L'évangile de saint Matthieu commence par raconter la naissance de Jésus. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils habitent ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph l'apprend. Il est embarrassé. Et c'est un mot que j'emploie à dessein ici, devant la Vierge espagnole, parce que « embarazada » en espagnol, ça veut dire « enceinte ». Mais son embarras est parlant. Il envisage une solution légale, la répudiation, mais il se sent très bien au fond lui-même que c'est pas moral, que c'est pas la bonne solution. C'est l'embarras de tous les parents à qui on annonce que l'enfant qui va naître, il y a cette grande joie de l'enfant qui vient, et on leur dit non, il pourra pas bénéficier, jouir de tout le bien-être qu'on peut espérer. Le bien-être qui est quand même aujourd'hui la religion dominante. Voilà, c'est même la plus grande religion du monde, qui fait que c'est la plus grande confusion. Tout le monde confond aujourd'hui bien-être et bonheur. Parmi les fiancés que je reçois, il y en a quelques-uns qui sont catholiques. Il y en a qui sont venus d'ailleurs me poser la question, d'ailleurs en disant, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ce qui est légal, l'avortement, ou ce qui est moral, le respect de toute vie, depuis sa conception? Avec délicatesse, je les ai prévenus que, quel que soit le soin, l'amour, tout ce qu'ils pourront donner à leurs enfants, rien ne dit qu'ils n'auront pas ensuite, des années après, dans l'enfance, dans la jeunesse, des épreuves terribles. Soit parce qu'ils auront un enfant menteur, tricheur, asocial, insupportable, ça peut arriver dans les meilleures familles, soit de façon souvent plus tragique, à cause de maladies, de terribles accidents, voire de désordres ou de maladies psychiques. En un mot, malheureux. Pour l'instant, la loi ne permet pas de supprimer l'enfant quand il est grand et raté. On ne peut même pas le déshériter complètement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là quand le Seigneur nous confie une mission qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas prévu et qu'on n'a pas voulu? Cet écart entre ce qui est légal et ce qui est moral, c'est une des trames de l'Évangile. Ça revient sans cesse dans les discussions des pharisiens avec Jésus sur le respect de la loi. Or la loi par nature ne peut pas être parfaitement morale parce que la loi elle est générale, elle ne prévoit pas les cas particuliers. On ne peut pas tout légiférer. C'est le caractère stérile de tous les débats, y compris sur le code du travail, où on cherche à tout mettre dedans, où la propension des politiques est effectivement à créer de nouvelles lois. Du temps de Jésus, on étouffait déjà. On étouffait à cause de la loi. On ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout codifier, on ne peut pas tout légiférer, car l'esprit est plus grand que la lettre, et nous sommes tous des êtres de l'esprit. C'est l'esprit qui fait vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là lorsque notre cœur, notre conscience nous dit quelque chose qui ne correspond pas à ce qui est prévu par la loi? Poser la question suppose déjà qu'on écoute notre cœur. Et c'est un aspect essentiel de la prière. C'est une des raisons d'être de la prière quotidienne, d'écouter son cœur et sa conscience, de prendre le temps de se remettre devant Dieu, plus grand que notre cœur, de nous arrêter librement, sans y être contraint à chaud par des événements ou par des difficultés, et de retrouver au cœur de la prière le Christ Jésus, celui dont parle l'Évangile de ce jour, qui le montre, le Saint de Dieu, celui qui commande aux esprits impurs et lui obéissent, celui dont l'enseignement est nouveau, donné avec autorité, parce qu'il est la plénitude de l'Esprit Saint. Que nous demande le Seigneur? Il nous demande d'agir en conscience. Il nous demande de prendre appui sur lui plus que sur la loi. Sur lui qui est la vie, qui est le vivant, tandis que la loi ne l'est pas. Elle n'est pas vivante. Mais ce n'est pas une solution, il n'y a pas une solution magique, parce que chaque fois ça suppose, ça implique que nous nous engagions, que nous participions, que nous lui faisions confiance. Nous croyons, c'est ce que nous croyons de la grâce de Dieu, que nous ne pouvons rien sans lui. Mais lui ne fait rien sans nous. Lui ne fait rien sans nous. C'est pourquoi aucune situation n'est identique à une autre. Chacun reçoit de Dieu le secours dont il a besoin. Dans la première lecture qu'on a entendue, il y a cette promesse de Dieu de nous donner pas des nouvelles lois, pas de nouveaux règlements, mais dit-il à Moïse, un prophète comme toi. Et en réalité, bien plus grand que toi, plus grand même que le prophète Élie, le Christ Jésus. C'est pourquoi nous voici rassemblés chaque dimanche. C'est pourquoi chaque jour de la semaine, si possible, nous reprenons l'évangile, soit du jour, soit du dimanche, pour le regarder vivre, le regarder faire. Un peu comme les enfants voient faire leurs parents. Et c'est une comparaison qui est juste, parce que le Christ le dit. Le Père est en lui, le Père est en moi, dit Jésus. Vous savez à quel point un jour il apostrophe Jésus, un de ses apôtres, « Philippe, enfin, pourquoi dis-tu, montre-nous le Père ? Tu ne crois pas que je suis devant le Père, que le Père est en moi ?» C'est au chapitre 14 de Saint Jean. Et il ajoute, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, dit Jésus, moi je le ferai, mais je ne le ferai pas à votre place, pas à votre place, avec nous, mais à nous de nous demander ce que nous faisons avec lui, ce que nous faisons réellement avec lui.